de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
This is a day of national consecration.
C'est un jour de consécration nationale. Et je suis certain qu'en ce jour, mes compatriotes américains attendent de moi, leur président, que je prenne les décisions que nécessite la situation actuelle.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La question vient de jaillir avec violence hors des pages des manuels de droit constitutionnel. La question des limites que peut rencontrer la volonté du président des États-Unis d'Amérique. Fort peu d'observateurs avaient prévu, voici un an, la victoire de Donald Trump. Et une fois celle-ci advenue, beaucoup avaient annoncé qu'il tempérerait, à coup sûr, le programme tonitruant sur lequel il s'était fait élire. Or, il n'a pas fallu longtemps pour que cette dernière illusion éclate comme une bulle de savon sous le regard du monde stupéfait. Dans le même temps, il nous arrive l'information d'un grand nombre d'oppositions virulentes à l'intérieur du pays aux décisions concrètes ou symboliques que le nouveau président vient d'afficher sans désemparer. Il s'impose de considérer ce que l'histoire institutionnelle des États-Unis peut nous dire sur la genèse et sur les mécanismes de la répartition des pouvoirs dans cette grande démocratie, sur les freins qui peuvent ralentir et éventuellement paralyser l'action d'un hôte de la Maison-Blanche. Chacun s'entend bien que l'enjeu dépasse largement la politique intérieure et concerne la planète tout entière. J'ai invité Pierre Mélandry, professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, qui est l'un des meilleurs connaisseurs de ce grand sujet, à me rejoindre pour l'éclairer. Il est rare qu'une actualité angoissante appelle aussi impérieusement le réconfort d'une histoire sereine.
S'il me fallait nommer, ô monde de l'Ouest, ton plus puissant spectacle et tableau, ce ne serait pas toi, Niagara, ni vous, prairies sans bornes, ni les crevasses énormes de tes gorges, Colorado, ni toi, Yosemite, ni le Yellowstone avec toutes ces boucles de geysers spasmodiques qui montent vers les cieux, paraissent et disparaissent. Ni les cônes blancs d'Oregon, ni la ceinture des lacs énormes du Huron, ni le cours du Mississippi. Je nommerai l'humanité de cet hémisphère grouillant comme la voici. La petite voix silencieuse qui vibre le jour des élections en Amérique. Le cœur n'en est dans les élus, l'acte lui-même le principal. L'élection tous les 4 ans. L'étendue du nord au midi réveillée, côtes et intérieures, du Texas au Maine, les États des prairies, Vermont, Virginie, Californie, de l'est à l'ouest, l'ondée finale du scrutin, le paradoxe et conflit, les flocons de neige qui tombent innombrables, conflits sans épée, pourtant plus que toutes les guerres de Rome antique ou moderne de Napoléon, chacun faisant son choix en paix. Bonne ou mauvaise humanité, sourire à la chance malheureuse, à la scorie. Le vin écume et fermente, cela sert à le purifier, tant que le cœur allait, arde la vie. Ces rafales et vents de tempête poussent précieux navires, gonflèrent les voiles de Washington, Jefferson, Lincoln.
Pierre Mélandry, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert l'extrait d'un poème de Walt Whitman, le grand poète américain pré-écologiste du 19e siècle, qui s'appelle « Jour d'élection », un poème de 1884, qui est lu ici par Georges Claes dans « Les nouveaux chemins de la connaissance » le 7 novembre 2012.
Oui, je crois que ça nous rappelle d'abord une première chose, c'est que la Constitution des États-Unis est prononcée au nom du peuple. Oui, the people. Et qu'au fond, ce retour au peuple s'effectue tous les 4 ans, et même d'ailleurs pour les partiels tous les 2 ans, et a été voulu d'emblée comme une sorte de contrainte sur les pouvoirs qui pourraient être tentés d'abuser des compétences qui leur ont été confiées. Parce qu'il faut voir dans quelles conditions la Constitution des États-Unis a été conçue. Au fond, au départ, lorsque les colonies se sont révoltées, dans la mesure où elles voulaient échapper à un arbitraire monarchie, elles ont tenu à mettre d'abord l'accent sur leur propre autonomie, voire leur souveraineté, et se sont contentés d'articles très lâches, dits de la Confédération.
Là, on est en 1778-1780, juste après la guerre d'indépendance.
Oui, c'est en fait, ils sont négociés à partir de 1777 et entrent en vigueur en 1781, et ils vont durer jusqu'à la mise en application de la Constitution en 88. La Constitution elle-même ayant été adoptée par les pères fondateurs en 87. Donc, le premier point, c'est l'absence, au départ, d'un pouvoir central fort, dont on voit bientôt les conséquences, dans la mesure où il y a une sorte de paralysie, en particulier en matière monétaire. Il y a une très lourde dette du fait des dépenses de guerre. Et cette Confédération est dans l'incapacité de lever l'impôt, sauf à l'unanimité de ses membres, qu'elle n'obtient pratiquement jamais. Par ailleurs, dans un monde qui reste encore hobbesien, on n'est pas dans la grande Amérique impériale des années 40 et 50, on est avec 13 colonies qui ne représentent qu'une frange côtière, et il y a encore, et par-dessus tout, la présence de l'Angleterre au nord. On a peur de se retrouver sans la puissance nécessaire pour faire face à d'éventuelles pressions étrangères.
Oui, on oublie parfois que c'est un tout petit pays.
Mais voilà.
Et que cette constitution qui est adoptée alors, pour ce tout petit pays, est aujourd'hui celle qui régit les États-Unis
oui.
d'Amérique dans toute leur ampleur, mais, et qui en même temps a été extraordinairement souple. C'est pourquoi il est si intéressant de revenir à l'origine. Souple, pendant que nous avons eu 15 ou 20 constitutions, il n'y en a eu qu'une seule qui a prouvé une capacité d'adaptation hors de pair, mais en même temps qui a forcément eu à démontrer qu'elle pouvait faire évoluer ses différentes composantes.
Oui, et ça c'est la Constitution qui a été adoptée après les articles de la Confédération en réaction aux faiblesses que celle-ci avait démontrées. À partir d'un certain temps, c'est-à-dire autour de 1786-87, des gens commencent à se rendre compte qu'il faut avoir un système beaucoup plus efficace.
Avec déjà, dès ce moment-là, une opposition entre deux points de vue. Il y a deux pôles, ceux qui insistent sur la nécessité de ce pouvoir relativement centralisé, et ceux qui, au contraire, veulent perpétuer l'idée du pouvoir dominant des États confédérés.
Oui, ceux qui considèrent, comme Hamilton, qu'après tout, seul un pouvoir central puissant permettra un développement en particulier économique satisfaisant du pays, et ceux qui considèrent, comme Jefferson, que le pouvoir le plus légitime est celui qui est le plus proche du peuple. Et alors, ce qu'on va faire lors de la réunion de la Convention de Philadelphie en 1787, c'est concevoir un système assez remarquable, il faut le dire, dans l'esprit in medio stat virtus, où l'on va chercher à conjuguer des exigences a priori contradictoires.
Je peux traduire le latin ? La vertu est au centre.
C'est au centre. Alors, deux choses, au fond, vont apparaître. La première, c'est malgré tout l'accord sur la création d'un pouvoir central beaucoup plus fort qu'il n'était jusqu'ici.
Ça, c'est Hamilton, en gros. C'est Hamilton, dans les articles du Fédéralisme, où il écrit, par exemple, « L'énergie dans l'exécutif est l'un des principaux caractères dans la définition d'un bon gouvernement. » Cela est essentiel à la sûreté de la société contre les attaques étrangères. Cela l'est également à l'application stricte des lois, la protection des propriétés contre des tentatives irrégulières qui parfois interrompent le cours ordinaire de la justice. Enfin, c'est la vigueur du pouvoir exécutif qui protège la liberté contre les entreprises et les assauts de l'ambition, de la faction et de l'anarchie. À l'époque de Donald Trump, il est intéressant de citer ce texte. Et puis en face, il y a l'autre point de vue.
Oui, c'est cet équilibre qu'on va rechercher dans la définition des rapports entre le pouvoir central ou pouvoir fédéral et les pouvoirs fédérés, qui sont au fond les anciennes colonies émancipées. Cet équilibre se retrouve au niveau électoral. On va concevoir que, au niveau central, les chambres, qui sont la Chambre des représentants et le Sénat, représentent respectivement les populations pour la Chambre, parce que jusqu'ici, dans la Confédération, les États les plus peuplés se plaignaient de ne pas peser d'un poids plus lourd que les États qui l'étaient moins, et le Sénat qui lui représente les États pour garantir aux États les moins peuplés qu'ils gardent une forme de contrôle et ne seront pas, au fond, les victimes de la majorité et qu'ils pourront véritablement défendre leurs intérêts.
Nombre de représentants conformes à la population.
Nombre de sénateurs, deux par État, grand ou petit. Et on retrouve d'ailleurs ce même équilibre au niveau de l'élection du président, puisque chaque État disposera d'un certain nombre de grands électeurs qui seront la somme de ses représentants et de ses sénateurs. Au minimum 3 et au-delà, évidemment, pour les États les plus peuplés.
D'où cet effet que nous avons observé déjà au moment d'Al Gore contre Bush et que nous venons de constater à nouveau, la possibilité pour un président d'être élu avec une minorité de voix.
Oui, c'est arrivé quelquefois, effectivement, dans l'histoire américaine. Les cas les plus récents, c'est effectivement l'élection de 2000, où George W. Bush a battu Al Gore au collège électoral tout en ayant moins de voix dans le vote populaire. Et ça vient bien sûr, on en est tous conscients, de se produire récemment lorsque Madame Clinton, en dépit d'une avance de près de 3 millions de voix, s'est vue battue, parfaitement d'ailleurs constitutionnellement, par Donald Trump.
Alors, il faut insister dès ce moment-là, quand on pense à notre actualité, sur la résistance des États au pouvoir central. Cela se lit actuellement du côté, par exemple, de la Californie, où un certain nombre de gens parlent d'un cal-exit, la possibilité d'une séparation, c'est assez mythologique, et qui publie du côté de San Francisco, par exemple, un texte magnifique de protestation contre toutes les intentions de Donald Trump.
Oui, parce que les États fédérés ont quand même gardé d'un très important pouvoir, particulier en matière d'éducation, voire de réglementation, voire de découpage des circonscriptions électorales et même de police. Lorsqu'on dit la police d'État aux États-Unis, ça n'a pas du tout la signification un peu inquiétante que cela pourrait avoir dans d'autres pays. Ce sont les agents qui règlent la circulation et font plus ou moins, on dirait-je, respecter la loi locale. Mais pour revenir maintenant à l'affaire que vous avez évoquée, qui est celle de la présidence, c'est là aussi une innovation par rapport aux articles de la Confédération, parce que lorsque l'on avait effectivement créé cette Confédération, il n'était pas question d'avoir un président, parce qu'on était inquiet de recréer en quelque sorte le despote britannique. Vous savez, c'est Edmund Burke qui dira des Américains, ils sentaient l'approche de la tyrannie dans tout coup de vent vicié. Il y a cette obsession de ne pas donner à un homme assez de pouvoir. Et la question se pose évidemment aujourd'hui pour remettre en cause ce qui est évidemment la raison d'être que se donnent les États-Unis, c'est la préservation des libertés. Les États-Unis, c'est la terre des libertés. Ils se veulent comme tels dès la fin du 18e. Jefferson parlera en 1803 d'empire de la liberté. Bref, le mot est sacré. Mais en même temps, la liberté, il faut la défendre. Puisque la sécurité est quand même le pendant de la liberté. D'où cette idée de créer désormais, parce qu'on a vu l'inefficience du système de l'exécutif par commission, bureau qu'avait institué la Confédération, d'où l'existence désormais d'un président, mais d'un président que l'on veut à la fois assez faible pour ne pas remettre en cause ce principe cardinal qu'est la liberté des citoyens, et même assez fort pour protéger le système des désordres intérieurs et des menaces extérieures. Et c'est cela que fait la Constitution de 1787 en établissant, selon la formule de Montesquieu, une séparation des pouvoirs qui est en même temps une imbrication de façon à leur permettre de se contrôler. Le grand juriste Louis Brandeis, qui a été entre autres d'ailleurs juge à la Cour suprême, disait que le but essentiel du système n'était pas tant l'efficacité que d'empêcher l'émergence d'un pouvoir arbitraire.
Il écrit d'entre les deux guerres, Brandeis, voilà. C'est déjà beaucoup plus tard effectivement, mais on a constaté dans l'histoire qui a suivi, on a constaté à quel point cette tension pouvait poser de problèmes entre en effet la nécessité d'une faiblesse démocratique et d'une force à l'extérieur et à l'intérieur du président.
Ben, c'est-à-dire que le grand atout du président, c'est d'être seul face à des dizaines ou même des centaines de parlementaires. Autrement dit, dans les cas de crise, dans les cas de tension internationale, il est le seul à pouvoir avoir une chance de montrer la direction, de fixer le cap. Et donc, c'est vers lui que, naturellement, on se tourne. Et d'ailleurs, les constituants américains étaient très inquiets, effectivement, de la capacité du président à utiliser les crises, et en particulier la guerre, pour affirmer ses pouvoirs.
Et on peut dire aussi la crise économique à l'époque de Roosevelt. Avec son habituelle lucidité, Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, avait déjà vu cela. Il écrivait « Si la vie de l'Union était menacée, on verrait le pouvoir exécutif grandir dans l'opinion par ce qu'on attendrait de lui et par ce qu'il exécuterait. Le président des États-Unis possède des prérogatives presque royales dont il n'a pas l'occasion de se servir et les droits dont jusqu'à présent il peut user sont très circonscrits. Les lois lui permettent d'être fort, les circonstances le maintiennent faible. » Nous aurions pu, Pierre Mélandry, mettre ce propos en épigraphe de notre conversation.
Absolument. Tocqueville, avec sa lucidité tout à fait extraordinaire, voit bien ce qui est en train de se passer. Pour le moment, les circonstances, on est évidemment dans la première moitié du 19e siècle, tiennent la présidence relativement circonscrite.
Nous évoquons l'équilibre entre le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, et d'autre part le président, mais il y a un troisième acteur, qui est la Cour suprême, qui va affirmer son autorité dès le début du 19e siècle. Il faut en dire un mot, et avant de le faire, je vais vous faire entendre le propos d'un juge de la Cour suprême, actuel, Stéphane Breyer, qui est un juge libéral. Il a été nommé par Clinton, ce qu'on peut appeler un juge progressiste, plutôt sur la gauche de la Cour suprême, qui est aujourd'hui divisée en deux. Nous en dirons un mot tout à l'heure. Stéphane Breyer s'exprime dans un entretien avec notre ami Antoine Garapon sur France Culture, le 4 juin 2014. C'est une émission à voix nue. Écoutons-le.
Pourquoi est-ce que la Cour suprême a le pouvoir d'annuler une loi promulguée par le Congrès? Après tout, nous sommes une démocratie. Et les électeurs ont décidé que c'est eux et pas les juges qui vont trancher, décider les affaires. Que Hamilton et les autres fondateurs ont décidé qu'il faut avoir quelqu'un dans le gouvernement pour contrôler les autres. Mais qui? Le président? Si c'est le président, il va être un roi trop puissant. Il va dire n'importe qui qu'il fait, c'est constitutionnel. Mais le Congrès? Le Congrès, ils sont les parlementaires, ils sont élus. Et il dit ça dans le Fédéraliste, dans cette pamphlet. Il dit pourquoi pas le Congrès? Parce que le Congrès, ils sont des experts sur la popularité. Vraiment. Mais ce document, la Constitution, est écrit pour la personne le moins populaire des États-Unis. Il a exactement le même droit que la personne la plus populaire. Donc, Hamilton a dit non. Pas le Congrès, donc nous avons des juges. Des juges, quel avantage. Ils sont gris. Personne ne les connaît. Parfait. Ils n'ont pas des armes. Ils n'ont pas une milice. Ils n'ont pas le pouvoir de bourse, de ça.
Ni la bourse, ni l'épée.
Oui, exactement, c'est ça. Ils sont faibles. Ils sont inconnus. Ils sont des juges et ceci a quelque chose à faire avec le droit. Parfait, parfait.
Parfait, parfait, Pierre Mélandry. Est-ce parfait? En fait, les auteurs de la Constitution de 1787 n'avaient pas forcément prévu que la Cour suprême jouerait ce rôle, même s'ils avaient beaucoup lu Montesquieu et qu'ils étaient attachés aux checks and balances, à l'équilibre des pouvoirs.
Ah oui, c'est la Cour suprême qui s'est arrogée elle-même le droit de dire la constitutionnalité des lois. Ça a été à l'occasion d'un arrêt début 19e,
fameux
du juge, enfin du juge, chef de la Cour suprême, qui était le juge John Marshall, intitulé Marbury v. Madison.
Versus,
font partie plaignante contre la personne mise en cause. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait, pour faire très simple, d'un quelqu'un qui avait été nommé, se plaignait que sa nomination n'avait pas été avalisée par le président suivant et se tournait devant la Cour suprême. Alors, ce qu'a fait la Cour suprême a été assez extraordinaire. En principe, une loi avait été votée qui lui accordait le droit de juger de ce type de contentieux. Mais la Cour suprême a regardé la Constitution et elle s'est aperçue que la Constitution lui donnait le droit de juger en première instance dès lors qu'il s'agissait de conflits en quelque sorte à l'international, mais pas lorsqu'il s'agissait d'affaires internes américaines. Et donc, elle s'est départie d'un pouvoir en disant que cette loi était inconstitutionnelle et en refusant donc de se déclarer compétente en la matière, en se donnant un pouvoir infiniment plus élevé, celui de juger de la constitutionnalité des lois. Et cela a fait d'elle, effectivement, la troisième branche capitale du système constitutionnel américain. Et aujourd'hui, certains se demandent, effectivement, si elle ne sera pas le pouvoir susceptible de contrôler l'exercice des compétences du président au cas où celui-ci, comme pas mal le redoute, viendrait en abuser. Et d'où, bien sûr, l'importance de la nomination des juges à la Cour suprême, car ils détiennent souvent la clé de l'évolution politique.
Et en plus, ils vivent sur un rythme très différent, puisque eux sont là pour longtemps. Ils sont inamovibles par définition. Il y a un propos qu'on répète toujours, les juges de la Cour suprême ne démissionnent jamais et ils meurent rarement.
Oui, c'est un propos tout à fait juste, même si il leur arrive de démissionner. Et actuellement, on dit que, comment dirais-je, la nomination d'un juge, certainement très conservateur, mais tout à fait honorable par Trump, vise à persuader un autre juge de la Cour suprême de donner sa démission en raison de son âge, ce qui permettrait à Trump, à ce moment-là, peut-être, de nommer un juge encore plus conservateur que le juge qu'il a désigné.
Du point de vue de l'équilibre des pouvoirs, on peut rappeler que Obama avait essayé de nommer un juge qui était plutôt libéral, et que les Républicains ont gagné du temps pour empêcher cette nomination, d'où la possibilité aujourd'hui donnée à Trump, nouveau président, de choisir son homme ou sa femme.
Oui, c'est exactement cela. En fait, même Obama avait nommé un homme dont l'image était plutôt celle d'un modéré, précisément pour que le Sénat n'ait pas de prétexte politique à retarder sa nomination et donc les auditions. Mais le Sénat républicain n'a rien voulu entendre et le poste est resté vacant, c'est celui libéré par la mort du juge Scalia. Et aujourd'hui, effectivement, Trump a pu désigner un candidat vraiment conservateur, même s'il l'a choisi tel que l'on peut penser qu'il ne suscitera pas la même opposition qu'un candidat encore plus conservateur, mais le problème va se poser néanmoins. Les démocrates n'ont pas digéré, pour parler de façon un peu triviale, le comportement des sénateurs durant l'année précédente.
Qu'on procrastine, qu'on gagne du temps.
Et dans la mesure où il faut encore 60 voix sur 100 pour la confirmation d'un juge à la Cour suprême, ils ont tout à fait théoriquement les voix pour s'opposer à sa nomination. Et la question est dès lors posée pour les Républicains, est-ce que ils vont recourir à l'ultime, ce qu'on appelle arme nucléaire, c'est-à-dire changer le règlement qui déjà avait été modifié par les démocrates qui avaient fait valoir que la plupart des nominations du président ne requéraient que la majorité simple et non pas qualifiée et appliquer cette majorité simple à la nomination à la Cour suprême. Ce qu'ils hésitent à faire parce que ils se disent que peut-être un jour, la politique étant mouvante, eh bien, on aura une majorité démocrate et qu'on regrettera d'avoir perdu cette forme de contrôle qui était la flibuste sur les nominations de juges à la Cour suprême.
Dans la ligne du sujet qui est le nôtre ce matin, Pierre Mélandré, c'est-à-dire les limites du pouvoir du président des États-Unis, cette influence de la Cour suprême est évidemment très très importante. Elle avait beaucoup irrité Roosevelt lui-même, Franklin Roosevelt, l'homme du New Deal dans les années 30, puisqu'il avait essayé lui-même de modifier la Cour suprême en disant que lorsque des juges auraient plus de 70 ans, ils pourraient rester juges, mais qu'on les doublerait de quelqu'un d'autre. Il aurait fait une fournée qui aurait permis de rendre démocrate la Cour suprême, ce qui montre, à contrario, à quel point celle-ci peut peser dans le fonctionnement et qu'elle peut constituer un frein à l'autorité d'un président, ce qui, du point de vue de Trump, nous intéresse.
Oui, alors, deux choses à ce propos. On l'a vu, ce pouvoir de la Cour suprême, dans les années de George W. Bush, ou par divers arrêts, en particulier Ressel versus Bush, ou encore Hamdi versus Rumsfeld, elle a mis un frein à la capacité du président d'ignorer l'habeas corpus ou de prétendre que la loi américaine ne s'appliquait pas à la prison de Guantanamo. Mais inversement, ce que disait d'ailleurs le juge Breyer à Antoine Garapon, la Cour suprême a quand même des limites dans l'exercice de son pouvoir. D'abord, elle n'a pas l'épée, ni l'argent. On le voit chez Andrew Jackson dans les années 1830, quand les Cherokees vont devant la Cour suprême.
Les Indiens.
Oui, les Indiens de Cherokee, une des tribus civilisées, pour protester contre la décision de les déporter à l'ouest du Mississippi. Et ces Cherokees l'emportent auprès de la Cour suprême. Réponse de Jackson. John Marshall, le président de la Cour suprême, a pris sa décision, eh bien, qu'il l'applique. Autrement dit, rappel au Chief Justice des limites de ses moyens.
En sens inverse, Roosevelt a échoué lorsqu'il a essayé de modifier
la Constitution. Oui, il a échoué, il a perdu la bataille, mais il a gagné la guerre. Parce que le vrai pouvoir de la Cour suprême, c'est sa légitimité. Et pour ne pas la remettre en cause, elle ne peut pas aller trop brutalement à l'encontre d'une volonté populaire très largement exprimée. Or, en 37, Roosevelt vient d'être réélu triomphalement en 36. Et ce qui se passe, c'est que le Congrès, car la Constitution permet au président de proposer au Congrès de voter une fournée de juges, le Congrès réalise chez les républicains que c'est évidemment une pente très dangereuse qui permettrait à un président dont il se méfie de bouleverser les équilibres constitutionnels. Et les démocrates eux-mêmes se disent que s'ils font confiance à Roosevelt, dès lors que le procédé est accepté, on ne sait ce qu'il deviendra sous la présidence d'un homme beaucoup moins respectueux des libertés. Et donc, c'est un échec. Mais que se passe-t-il tout de suite après? Si Roosevelt propose cela, c'est parce que la Cour suprême a déjà rejeté 7 des 9 principales mesures du premier New Deal. Elle s'apprête à rejeter le Wagner Act sur la légitimité des syndicats. Elle s'apprête à rejeter la loi sur la Social Security, c'est-à-dire essentiellement les pensions retraite que vient de faire adopter Roosevelt. Une autre loi sur les holdings. Et que se passe-t-il après l'échec de Roosevelt? C'est quand même que la Cour suprême valide en réalité ces lois. Et par la suite, le président va pouvoir, simplement par le jeu normal des départs, nommer à la Cour suprême suffisamment de juges progressistes pour se garantir la préservation de ces mesures. Et mieux, dans les années 50 et 60, la Cour suprême passe pour le plus progressiste, liberal en anglais, des trois pouvoirs.
Donc elle peut en quelque sorte lisser les rythmes, les
très
émotions
exactement
du suffrage universel.
Elle est un élément qui tempère les grands à-coups, si l'on peut dire, de l'opinion populaire.
pour voir l'équilibre non plus entre la Cour suprême et la présidence, mais entre le Congrès et la présidence, il faut remonter au XIXe siècle, c'est-à-dire aux événements successifs, notamment aux événements militaires, aux guerres qui ont chaque fois, selon la prévision de Tocqueville, amené presque chaque fois, en tout cas, la présidence à affirmer davantage son autorité. Et du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire les limites possibles au pouvoir de Donald Trump, c'est important.
Oui, les pères fondateurs avaient tout à fait conscience que c'était la guerre et l'hystérie collective que pouvait entraîner une aventure étrangère ou le sentiment de peur, panique que pouvait susciter une menace extérieure qui serait les principaux leviers de l'affirmation du pouvoir présidentiel. Aussi, les pères fondateurs avaient-ils conçu un système vraiment de freins et contrepoids, non seulement sur le plan intérieur, il faudrait évoquer bien sûr le droit de veto législatif du président, mais également le droit éventuellement d'impeachment du Congrès.
Impeachment, c'est-à-dire, il précisait ce dont il s'agit.
Il s'agit pour le Congrès de pouvoir mettre en accusation, c'est la Chambre qui met en accusation et le Sénat qui juge, un président, mais attention, on n'est pas du tout dans un régime parlementaire, ça ne saurait être, en tout cas, juridiquement, pour une question politique, c'est en cas, et je cite la Constitution, de trahison, de concussion, ou d'autres crimes et délits graves.
Et au fond, il est intéressant de noter que jamais l'impeachment n'a été jusqu'au bout, puisque Johnson a été acquitté, que Nixon a démissionné avant qu'il fonctionne l'impeachment, et que Clinton lui-même n'a pas été frappé par l'impeachment.
Non, mais Clinton a été, par exemple, très affaibli. Johnson, lorsque ça s'est produit, était déjà extraordinairement affaibli. Quant à Nixon, il a quand même été contraint de démissionner.
Pour nous faire sentir l'ambiance assez dramatique de ce départ de Nixon, qui s'en va pour éviter l'impeachment, cet extrait de son propos, le 21 juillet 1974, il annonce que son pouvoir cessera le lendemain à midi.
Resolve that Richard M. Nixon, President of the United States, is impeached for high crimes.
La commission décide que Richard Nixon, président des États-Unis, sera empêché pour ses crimes et délits.
All those in favor,
que tous ceux qui sont favorables disent aye.
Mr. Donahue.
Aye.
Mr. Brooks.
Aye.
Richard Nixon.
Aye.
From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter,
des discussions que j'ai eues avec des membres du Congrès, je conclus que suite à l'affaire du Watergate, je pourrais ne plus avoir le soutien du Congrès et continuer ma mission dans l'intérêt de la nation. Par conséquent, ma démission prendra effet demain à midi.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Le 19e siècle est le temps où progressivement la présidence affirme son autorité et comme l'avait prévu Tocqueville, c'est souvent de guerre en guerre. Déjà Washington dans son testament marque l'importance de la présidence après avoir refusé de se présenter une troisième fois pour un troisième mandat. Et puis il y a Jackson et il y a Lincoln. Il faut dire un mot du rôle de Lincoln à cet égard.
Oui, on peut déjà revenir au début 19e où les présidents développent la théorie de la guerre défensive. Et ça, la Constitution leur reconnaît implicitement le droit de conduire des guerres qui n'ont pas été déclarées. Et c'est reconnu par la Cour suprême très vite.
Contre le Mexique, par exemple, le président...
Ah non, le président Mexique, non, là, il y a déclaration de guerre contre le Mexique, mais on a eu des guerres défensives menées contre les Indiens, par exemple, contre les barbaresques, dans la quasi-guerre avec la France. Parce que la Cour suprême considère qu'au fond, le Congrès a voté en général les fonds qui permettent au président de lever et entretenir les troupes. Mais un autre dérive du pouvoir du président, c'est au niveau du pouvoir des traités.
Au début, on affirme que le Sénat va négocier avec le président, et puis assez vite...
Voilà, il y renonce, et mieux, il renonce surtout à s'occuper de beaucoup de textes internationaux, auxquels le président s'empresse de substituer des accords dits de l'exécutif, qui négocie directement et qui commencent déjà à se multiplier. Près de la moitié des accords internationaux pour le début 19e siècle, disons jusque vers les années 1880, sont des accords exécutifs. Et évidemment, ça deviendra alors majoritaire, 93% dans les grandes années de présidence impériale.
Cela dit, si Wilson avait été accompagné par des représentants du Sénat, et notamment des Républicains, lors de la négociation du traité de Versailles, il se peut qu'il n'ait pas vu ce traité désavoué ensuite par le Sénat. S'il avait emmené, par exemple, Monsieur Cabot Lodge, le grand leader républicain. À l'époque, on disait les Cabot ne parlent qu'aux Lodge et les Lodge ne parlent qu'à Dieu.
Oui, absolument. Et ça avait été une erreur que d'ailleurs Franklin Delano Roosevelt s'est empressé de ne pas répéter en invitant les grands caciques du parti républicain à le seconder dans la négociation des accords qui prévoyaient le futur ordre international de l'après-Deuxième Guerre mondiale.
On ne peut pas minimiser en fait le rôle de Roosevelt dans l'évolution de ce pouvoir du président tel que nous le voyons. Je vais vous le montrer, si vous voulez bien, par la voix de Paul Claudel, tel qu'il est. Il faut le faire surgir, on comprendra mieux la place qu'il a dans notre réflexion sur les limites du pouvoir du président des États-Unis. Paul Claudel regardant Roosevelt au moment où lui-même est ambassadeur de France à Washington.
Ce long visage toujours souriant, ce grand corps infirme que le visiteur avait devant soi, la première notion confirmée dès les premiers moments par la conversation était celle d'un optimisme intrépide. On avait devant soi un homme absolument convaincu de son ascendant sur les circonstances, sûr qu'il n'avait jamais été fait pour avoir, sous aucune condition, le dessous, sûr que les pires difficultés ne lui étaient proposées que pour céder à l'énorme potentiel de foi et de persuasion dont il se sentait possesseur. L'image de Franklin Roosevelt que la postérité devrait conserver est celle de ce glorieux infirme parlant cœur à cœur dans la conviction, non, le mot n'est pas assez fort, dans l'amour, à l'oreille de ces millions d'êtres obscurs dont il se sentait moins le chef que le puissant associé et moins le président que le précepteur.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
C'était un propos de Paul Claudel en 1948, Pierre Mélandry.
Ah oui, Roosevelt, enfin le deuxième Roosevelt, est tout à fait essentiel pour l'ascension des pouvoirs de la présidence, pour trois raisons.
Premier, c'est Ted Roosevelt.
Le premier, qui d'ailleurs,
au début du XXe siècle,
a un petit peu commencé à être un des présidents les plus actifs et les plus déterminants pour l'histoire américaine.
Restons sur Franklin.
Sur Franklin. Ce qu'on peut dire, c'est que première chose, il s'est admirablement utilisé les moyens de communication. Alors, Théodore a commencé, n'est-ce pas? C'est le premier président qui utilise le bully pulpit, la tribune magique que constitue la Maison Blanche. Mais Roosevelt va beaucoup plus loin. Il utilise les conférences de presse, il utilise le nouveau moyen de communication, la nouvelle technologie, la radio à travers les causeries au coin du feu. Et il utilise d'ailleurs d'autres moyens de communication de masse, les slogans, les grandes manifestations dans les stades en soutien du New Deal. Bref, il sait mettre la communication moderne au service de la présidence.
C'était Roosevelt dont on a entendu tout à l'heure au début de cette émission, à l'intérieur de notre générique, un propos, c'est un extrait de son discours d'inauguration de mars 1933.
Oui, la deuxième chose essentielle évidemment, c'est la crise. Lorsqu'il arrive, le pays est dans un état de désarroi total et on est prêt à lui confié de très larges pouvoirs. Hoover a échoué, la situation est catastrophique et beaucoup de bons esprits n'hésitent pas à dire qu'il faudrait presque un dictateur aux États-Unis. On l'a oublié quand Roosevelt arrive et lui va réussir ce miracle d'à la fois donner une ligne très ferme et très efficace qui va sauver la démocratie sans tomber le moins du monde dans la dictature.
Mais il a un congrès démocrate en même temps.
Il a un congrès démocrate qui va lui permettre de, comment dirais-je, assurer d'énormes pouvoirs en matière intérieure et développer en quelque sorte la capacité d'intervention économique et sociale de la présidence. Avec Roosevelt, la présidence s'affirme, elle multiplie les agences, elle se donne les moyens véritablement de compter. Enfin, la troisième chose qui fait que Roosevelt est un moment essentiel dans l'ascension de la présidence, c'est évidemment la guerre. La guerre l'avait toujours été. Avec Lincoln, déjà, on avait vu le président convoquer la milice, étendre unilatéralement la taille de la marine et de l'armée américaine, suspendre l'habeas corpus. Oui, bien sûr, pendant la guerre de sécession, il avait suspendu l'habeas corpus, il avait fait arrêter des personnes jugées déloyales. Bref, il s'était arrogé toutes sortes de droits. Évidemment, cela avait provoqué par la suite une réaction du Congrès, mais on avait vu Wilson déjà recommencé dans la même direction. Il s'était fait confier d'énormes pouvoirs intérieurs durant la guerre, avec la Food Administration, confiée à quelqu'un qui était Herbert Hoover. Il y avait eu le National Industry Board, etc. Et aussi, on lui avait confié des grands pouvoirs en matière de répression avec les Espionage et Sedition Act, qui donnaient de pouvoirs de contrôle sur la dissidence très fort au président.
Donc la prévision de Tocqueville rencontre à cet égard ce qui s'est passé.
Oui, hormis que les deux fois, après Lincoln et après Wilson, on avait eu une réaction en sens inverse. Ce qui se passe avec Roosevelt, c'est que la Deuxième Guerre mondiale lui ouvre un champ d'autant plus grand que le Congrès a fait preuve d'un très large aveuglement face à la montée des périls étrangers. Le sénateur William Borah a expliqué encore en 1939 qu'il était sûr que Hitler ne voulait pas faire la guerre. Et le président a pu, avant même l'entrée en guerre, négocier des accords exécutifs de très grande portée, en particulier l'accord base Destroyer qu'il a conclu avec Churchill. Et par la suite, on a eu, de la part du Congrès, une très large adhésion aux propositions du président. Bref, durant la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt est doté de pouvoirs tout à fait immenses en matière économique. Il a le pouvoir d'allouer les ressources nationales et il a, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, l'habileté d'associer les républicains à la préparation de la paix.
Ce n'est évidemment pas le cas aujourd'hui du côté de Trump, même si on peut parler d'une guerre contre le terrorisme, on n'est pas dans la situation qu'a connue Roosevelt, ni d'ailleurs ses successeurs. Je voudrais que nous en venions maintenant, pour finir cette conversation consacrée aux limites du pouvoir du président des États-Unis, Pierre Mélandry, que nous en venions à la période de la guerre froide, période qui a succédé, et en vous faisant écouter... C'est Eisenhower, le général Eisenhower, qui a été élu en 1952 président des États-Unis, qui l'est resté pendant 8 ans. Cette chanson, I like, c'était le surnom que l'affection du peuple américain donnait à Eisenhower. I like Ike, c'est une chanson qui est destinée à soutenir la campagne présidentielle d'Eisenhower et qui est interprétée ici par Jen Greenway. I like Ike, 1952.
I like Ike, he's a friendly guy. When things go wrong, he doesn't pine and sigh. No, that great big smile and friendly grin helps you forget the mess that we're in. I like Ike, love that smile, makes me feel so good. Well, a pal of mine lost his job and his car while Ike was out golfing, shooting for par. Couldn't find a job for days and days, but for good old Ike he had plenty of praise. He said, I like Ike, I love that smile, makes me forget my troubles. Well, the government's big and Ike's so busy, he can't run it himself or he'd soon get dizzy. So he's got a lot of fellas just sort of helping him out while he's shooting the quail or catching the trout. And when he says we...
I like Ike, j'aime Ike, Pierre Mélandry. Qu'est-ce que nous dit cette chanson?
Oh bien, elle nous dit qu'on compte sur celui qui est finalement dans l'image des Américains le grand héros de la Deuxième Guerre mondiale, pour remettre de l'ordre dans un pays qui est en grande difficulté. Nous sommes à la période du maccartisme d'un côté, nous sommes aussi en pleine guerre de Corée. On est enfin en période d'ascension de ce qui va s'appeler la présidence impériale. Cette présidence impériale, elle tient au fond à trois choses. La première, c'est l'affirmation des moyens de communication, on en a parlé, qui va évidemment s'amplifier avec la montée en puissance de la télévision, surtout à partir des années 60 et de la présidence de John Fitzgerald Kennedy.
Aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies.
Absolument.
L'équivalent.
La deuxième raison de cette montée en puissance, c'est évidemment la guerre froide. On est en période de tension internationale permanente. Rappelons-nous que dans l'esprit des constituants qui s'inspiraient de John Locke, il y avait la théorie des pouvoirs implicites, des pouvoirs inhérents de la présidence, le sentiment que le président avait le droit de s'exonérer de la Constitution si c'était pour sauver la Constitution, et qu'ensuite il reviendrait au peuple de juger si le président avait abusé des pouvoirs qui lui étaient confiés, ou si, au contraire, il avait fait ce que son devoir lui dictait.
On n'a pas besoin de murmurer ça à l'oreille de Trump, apparemment, pour qu'il s'en convainque.
Il ne cesse de le répéter, c'est évidemment le grand leitmotiv des présidents, je suis en charge de la sécurité. On l'a vu, n'oublions pas, sous George W. Bush, avec la théorie de la présidence unitaire, l'idée que le président jurant, selon la Constitution, de veiller à l'exécution des lois, de préserver la nation américaine, il est de son devoir de faire tout ce qui lui paraît nécessaire à cet effet, quels que soient éventuellement les textes. Ce qui, évidemment, est plus que contestable, mais qui, dans la formule des pères fondateurs, était acceptable dès lors que le pays donnait ex post sa bénédiction. Mais enfin, pour revenir à la montée de la présidence impériale, il y a un troisième facteur, c'est que les États-Unis, tout d'un coup, deviennent un empire. D'une petite république, ils sont passés au rang de géants. Et donc, leurs intérêts extérieurs sont en jeu dans la surface du globe. Et alors, à ce moment-là, qui peut les défendre, qui peut les promouvoir, sinon la personne qui coordonne le renseignement, qui a à sa disposition toutes sortes d'agences pour l'aider à le faire. Et n'oublions pas qu'en 1947, on voit l'apparition d'éléments essentiels de la présidence américaine, qui est le Conseil de sécurité nationale.
Tout cela d'autant plus que la plupart des membres du Congrès sont très directement tournés vers leur circonscription. Parochial, dit-on souvent. Ils sont vraiment les questions de politique intérieure, les occupent leur esprit bien plus que les soucis extérieurs.
L'esprit de clocher l'emporte chez eux. Et puis, par ailleurs, il leur est difficile d'aller à l'encontre du président si celui-ci dit que les intérêts vitaux du pays sont en danger. Comment risquer l'opprobre qu'une opposition à la défense des intérêts pourrait leur valoir auprès de leur électorat? Et très longtemps, le Congrès va suivre, va même aller plus loin. Lors de la fameuse résolution du golfe du Tonkin, le président demande simplement le droit de répliquer à ce qu'il appelle, je dis bien appelle parce qu'on sait que l'affaire est complexe, et à ce qu'il appelle une agression nord-vietnamienne.
Rappelez-nous ce que c'est que la golfe du Tonkin.
On est en 64, les États-Unis sont déjà engagés au Vietnam à travers, d'abord, sous Eisenhower, la CIA et les opérations spéciales, ensuite sous Kennedy avec quelques 16 000 conseillers militaires, et sous Johnson, on a des opérations en réalité secrètes qui provoquent une réaction du Vietnam du Nord qui, explique Johnson, a tenté de torpiller par deux fois des vaisseaux américains.
Johnson, c'est lui qui est devenu Lyndon Johnson, président des États-Unis à la suite, il était vice-président à la suite de l'assassinat du président Kennedy.
Oui, et Johnson, en 64, demande au Congrès le droit de riposter à ce qu'il dénonce. Cela sera très contesté par la suite, comme des agressions nord-vietnamiennes contre des navires américains. Et il demande le droit de riposter. Et le Congrès lui donne non seulement ce droit, mais le droit de riposter par avance, de manière en quelque sorte préventive, à tout ce que les nord-vietnamiens pourraient faire, c'est-à-dire qu'on lui signe en quelque sorte un quasi-chèque en blanc. Autrement dit, dans cette période, ça va changer à partir des années 70, mais dans cette période, le Congrès accompagne la montée en puissance du président, et on peut vraiment parler de présidence impériale. On peut dire que dans les années 60, le président était sans doute le monarque le plus absolu du monde, à l'exception peut-être de Mao Tse-Tung, c'est Arthur Schlesinger là encore qui le dit, de toutes les grandes nations existantes.
Mais il y a des hauts et des bas depuis lors, et je ne sais pas si Trump sera un haut ou un bas, c'était un peu tôt pour le dire. Il y a des hauts et des bas, avec en particulier les effets néfastes de la guerre du Vietnam, les échecs des États-Unis là-bas, en péninsule indochinoise, et au moins jusqu'à Reagan, un déclin de la présidence impériale. Il y a vraiment des sinusoïdes, non?
Ah, le Vietnam est à la fois l'apogée et le crépuscule de la présidence impériale, parce que l'échec fait que l'opinion, tout d'un coup, a les yeux dessillés. Elle se dit, mais on nous disait que le président savait, que grâce aux services de renseignement, grâce à toutes les agences qui le servent, il était en mesure de conduire une politique efficace.
Et du coup, le Congrès reprend, si je puis dire,
c'est un échec. Et du coup, il y a une revanche du Congrès qui, par toute une série de mesures, en particulier la loi Keyes sur les accords exécutifs, la loi sur les pouvoirs de guerre qui est votée contre le veto du président, aux deux tiers dans chacune des chambres, par l'amendement Hughes-Ryan qui met sous contrôle la CIA, etc., le Congrès réaffirme sa prééminence et ses prérogatives en politique étrangère, sur lesquelles il avait fait l'impasse durant les débuts de la guerre froide, au point que le président Ford croit bon de parler, il est bien sûr, il n'est plus président, mais l'ancien président Ford,
qui a succédé à Nixon après la démission de celui-ci.
Oui, et qui lui-même a perdu l'élection de 76 face à Carter, et en 80, sous la présidence Carter, Ford parle d'une présidence en péril.
Présidence très faible, oui.
Oui. Et beaucoup d'Américains pensent, du coup, que si la présidence est en péril, en fait, c'est toute l'Amérique qui est en péril. Et dès lors, une période floue va commencer, où d'un côté, on va se rappeler les excès de la présidence impériale et chercher à mettre un frein à la montée de la Maison-Blanche, mais en même temps, se rendre compte qu'une Maison-Blanche forte, c'était déjà l'idée des constituants, est essentielle à la défense et à la promotion des intérêts et de la sécurité de la nation.
Et dans cette histoire, vous situez Trump d'aujourd'hui, Pierre Mélandry, ou qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que ce sera, du point de vue des va-et-vient du pouvoir du président des États-Unis?
On a eu une période de recul de cette présidence, en particulier donc après le Vietnam, mais aussi d'une certaine façon après la fin de la guerre froide, qui avait été un des piliers de l'ascension de la présidence. Mais le terrorisme, le retour de la menace extérieure, et les présidents ont toujours pris soin de dénoncer les actes de terrorisme comme des actes de guerre, ont remis les pouvoirs de guerre du président au premier plan. Bush se présentait comme un président de temps de guerre. Et il s'est arrogé énormément de pouvoir. On se rappelle que non seulement le Congrès lui en a voté, le Patriot Act, le droit d'intervenir en Afghanistan, le droit d'intervenir en Irak, mais lui-même s'en est arrogé directement. Les écoutes non autorisées, la création des tribunaux militaires, le pouvoir de rendition, et à un moment même, la torture. Alors, Obama lui-même à chercher à tempérer cet exercice de la présidence, mais il n'y a pas du tout pour autant renoncé au pouvoir de la présidence. Il en a gardé un bon nombre. On l'a vu, on lui a souvent reproché du côté républicain à quel point il a gouverné par décret. Et puis, il a continué à mener une guerre secrète contre le terrorisme. Et du coup, tout le monde s'interroge sur ce que Trump fera des pouvoirs de la présidence que Obama a mis quand même sous contrôle. Par exemple, les frappes de drones font l'objet de procédés extrêmement précis qui doivent éviter en principe les abus. Mais qu'en fera le nouveau président? Il va, tout dépendra sans doute à la fois de l'attitude du Congrès, de l'attitude de la Cour suprême, des circonstances. Que se passerait-il en cas d'attentat, et aussi de l'opinion? Vous aviez évoqué à juste titre la force de l'opposition qui s'est manifestée avec virulence dès l'élection et qui continue d'essayer de s'organiser et de faire en sorte que cette présidence soit sous contrôle. Et les États, là encore, vous l'aviez signalé, peuvent jouer un rôle très important, en particulier un État comme la Californie, qui est la sixième puissance économique mondiale et qui s'oppose directement à la politique d'immigration, mais aussi à la politique environnementale du président.
Et le très beau texte de la ville de San Francisco reprenant l'un après l'autre les différents points de Trump sur l'avortement, sur la torture, sur la politique économique, etc. Et sur l'hostilité pour des raisons religieuses à des étrangers venant sur le territoire américain. Je voudrais terminer en faisant quelques observations brèves sur la différence avec la France. On dit toujours le président français est plus puissant. Sur le Conseil constitutionnel, d'abord, c'est très récent chez nous, la Cour suprême, la capacité d'annuler les lois est intervenue seulement depuis 1958, alors que vous l'avez montré, Pierre Mélandry, elle est beaucoup plus ancienne. Mais il y a des différences qui sont frappantes. D'abord, une méfiance instinctive à l'égard de l'État, qui demeure aux États-Unis, et ce n'est pas le cas en France. La prégnance du fédéralisme, nous sommes un État qui reste très centralisé. Et le caractère unitaire aussi de l'exécutif américain, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas vraiment de gouvernement, il y a un président qui, et on le voit bien actuellement, qui choisit son cabinet plutôt qu'un gouvernement tel que nous le connaissons en France. On se rappelle toujours le mot d'Abraham Lincoln qui consulte son cabinet et qui conclut oui, un seul nom, les noms l'emportent.
Oui, c'est tout à fait cela. Alors sur l'État, je crois que la formule la plus parlante est celle de Thomas Paine qui disait « La société, quel que soit son visage, est toujours une bénédiction. Mais l'État, même dans le meilleur des cas, n'est jamais qu'un mal nécessaire. »
Thomas Paine qui est venu soutenir les Républicains, il habitait 10 rue de l'Odéon. Vous verrez, il y a une très belle plaque à Paris. Il y a une autre différence évidemment, c'est que aux États-Unis, contrairement à la France, les deux pouvoirs sont dans l'obligation de coexister, puisque sauf exception rare, impeachment, ils ne peuvent pas se renvoyer les uns les autres. Il n'y a pas possibilité de dissolution des chambres par le président, et le président ne peut pas être renversé comme dans un système parlementaire. Et puis enfin, on est frappé par l'adaptabilité de la Constitution américaine. Je crois que notre conversation l'a longuement marqué, ce qui n'empêche pas que, ou ce qui peut-être explique pourquoi il y a une grande incertitude sur la manière dont le président Trump, à partir de son impressionnante liste d'intentions, la manière dont le président Trump va s'en servir. Mais ceci, c'est la suite de l'histoire, c'est-à-dire l'avenir évidemment obscur. Pierre Mélandry, vous venez de publier un livre qui s'intitule « Le siècle américain, une histoire », paru chez Perrin tout récemment. Je rends hommage aussi aux deux tomes de votre Histoire des États-Unis, paru également chez Perrin en 2013. Et puis, pour préparer cette émission, nous avons fait fond sur le livre collectif de Denis Lacorne et Justin Weiss. Justin Weiss était mon invité la semaine dernière. Vous y avez participé. La présidence impériale de Franklin Roosevelt à George W., fils George W. Bush, paru chez Odile Jacob en 2007. Je cite également le petit livre de la précieuse collection Découverte chez Gallimard, le petit livre de Vincent Michelot qui s'appelle « Le président des États-Unis, un pouvoir impérial, point d'interrogation », avec beaucoup, beaucoup d'images et de réflexions précieuses. Vous pourrez naturellement, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie complète, plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlions du secret, Pierre Mélandry. Nous évoquerons les services secrets, notamment en France, la politique de l'ombre, avec Sébastien Laurent. C'est une question qui est aujourd'hui, comme hier, peut-être plus aujourd'hui qu'hier, d'actualité en France. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec le concours aussi de Guillaume Cotte, une émission réalisée par Philippe Baudouin, avec Dalia à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac, Marthe Laurent Clotilde Fio et Stéphanie Place. Et dans quelques instants, je vais passer le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.